Lizzie présente Le feu et la fureur. Trump à la Maison Blanche. De Michael Wolff. Traduit de l'anglais, États-Unis, par Isabelle Chellet, Nikki Copper, Michel Faure et Valérie Leplouinec. Lu par Bernard Gabet. Chapitre 1. Le jour de l'élection. Dans l'après-midi du 8 novembre 2016, Kellyanne Conway, directrice de campagne et personnalité centrale, voire star du monde de Trump, s'installe dans son bureau vitré de la Trump Tower. Jusqu'à ces dernières semaines, le QG du candidat est resté un lieu tranquille. Seuls quelques posters avec des slogans de droite le distinguent d'un bureau d'entreprise. L'humeur de Conway, ce jour-là, est au beau fixe, ce qui est remarquable pour quelqu'un qui s'apprête à vivre une défaite retentissante, voire cataclysmique. Donald Trump va perdre l'élection. Elle en est tout à fait certaine, mais pourrait terminer à moins de 6 points d'Hillary. Et cela, ce serait une réelle victoire. Quant à la défaite imminente, elle s'en lave les mains. Ce sera la faute de Reince Priebus, pas la sienne. Elle a passé une bonne partie de la journée à téléphoner à ses amis et alliés du monde politique pour leur dire tout le mal qu'elle pense de Priebus. Maintenant, elle propose des éléments de langage aux producteurs et présentateurs de télévision avec lesquels elle a noué des liens de confiance et auprès desquels, après plusieurs entretiens au cours des semaines passées, elle espère décrocher un job de présentatrice après l'élection. Elle a pris soin de traiter avec égard un certain nombre d'entre eux depuis qu'elle a rejoint la campagne de Trump à la mi-août et qu'elle est devenue la voix combative et convaincante de son camp, sourire mécanique à la fois blessé et imperturbable et visage particulièrement télégénique. Au-delà de toutes les terribles gaffes de la campagne, le vrai problème, explique-t-elle, c'est l'incontrôlable RNC, le Comité national républicain que dirige Priebus, son acolyte de 32 ans Katie Walsh et leur directeur de la communication Sean Spicer. Au lieu de les soutenir, le RNC, devenu l'instrument de l'establishment républicain, s'est carapaté depuis la nomination de Trump au début de l'été. Et quand Trump a eu besoin de leur soutien, il n'y a plus eu personne. Après ce préambule, dans la deuxième partie de son discours, Conway soutient que, malgré tout, la campagne de Trump a su remonter la pente. Une équipe sous-financée derrière le pire candidat de l'histoire moderne, elle lève les yeux au ciel à la seule mention du nom de Trump, ou présente le visage fermé d'un joueur de poker menteur, a finalement accompli un travail formidable. Conway, qui n'avait jamais intégré de campagne nationale et qui gérait, avant Trump, une petite boîte de sondage, réalise parfaitement qu'après l'élection, elle deviendra l'une des grandes voix conservatrices de la télévision. Pourtant, un sondeur de l'équipe Trump, John McLaughlin, suggère depuis une semaine que dans un certain nombre d'États clés, des estimations à l'origine désastreuses sont peut-être en train d'évoluer en faveur de leur champion. Mais ni Conway, ni Trump, ni son gendre Jared Kushner, le véritable chef de campagne, le représentant de la famille au sein de l'équipe dirigeante, ne veulent en démordre. Cette aventure inattendue arrive à sa fin. Seul Steve Bannon, faisant bande à part, continue à prétendre que les chiffres vont tourner en leur faveur. Mais les opinions de Crazy Steve, Steve le dingue, sont loin d'être rassurantes. Presque tout le monde, dans cette équipe de campagne, encore toute petite organisation, se considère clairvoyant et réaliste. Le consensus général, mais non dit, est que non seulement Trump ne sera pas président, mais que probablement il ne faut pas qu'il le soit. Cette conviction a un avantage. Personne n'aura à gérer les conséquences d'une victoire. Alors que la campagne se termine, Trump est confiant. Il a survécu au scandale du Pussygate et au RNC qui avait osé lui demander de se retirer de la course. En outre, le directeur du FBI, James Comey, vient bizarrement de rouvrir l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton à 11 jours du scrutin, épargnant à Trump un raz-de-marée démocrate. « Je peux devenir l'homme le plus célèbre du monde », a proclamé Trump au début de la campagne à l'un de ses conseillers intermittents, Sam Nunberg. Mais « Voulez-vous devenir président ?» a rétorqué Nunberg. Une question d'une nature différente de celle habituellement posée aux candidats « Pourquoi voulez-vous devenir président ?» Trump n'a pas répondu. Ce n'était peut-être pas nécessaire puisqu'il n'allait pas devenir président. Roger Ailes dit toujours que si on veut faire carrière à la télévision, il faut d'abord devenir candidat à la présidence. Et Trump, encouragé par son vieil ami, commence à lancer la rumeur d'un futur réseau de chaînes de télévision Trump. Un bel avenir l'attend. Il assure à Ailes qu'il va sortir de cette campagne avec une marque Trump plus puissante encore et riche de nombreuses opportunités. « C'est encore plus fort que je ne l'imaginais », lui dit-il une semaine avant le scrutin. « Je ne pense pas à la défaite parce que je ne vais rien perdre. J'ai déjà tout gagné. » Son discours de défaite est prêt. « On a volé ma victoire. » Donald Trump et ses petits soldats sont résolus à perdre dans le feu et la fureur. Ils ne sont pas prêts pour la victoire. En politique, quelqu'un doit perdre, mais tout le monde toujours pense pouvoir gagner. Et pour gagner, il faut croire en la victoire. Trump échappe à la règle. Son leitmotiv est de dire combien sa propre campagne est nulle et ses collaborateurs des losers. Il est également convaincu que l'équipe de Clinton est composée de brillants vainqueurs en puissance. Ils ont les meilleurs, nous les pires. Il suffit de voyager dans son avion pour faire l'expérience éprouvante du mépris de Trump à l'égard de ses collaborateurs. Il prétend être entouré d'imbéciles. Cory Lewandowski, son premier directeur de campagne, se fait régulièrement houspiller. Pendant des mois, Trump le surnomme « le pire », avant de finalement le virer en juin 2016. Après cela, le candidat ne cesse de répéter que sa campagne est foutue sans Lewandowski. « On est tous des losers », dit-il, « et vous, les gars, vous êtes catastrophiques, personne ne sait quoi faire. » Si seulement Cory pouvait revenir. Peu de temps après, Trump se fâche avec son deuxième directeur de campagne, Paul Manafort. En août 2016, il enregistre un retard de 12 à 17 points derrière Clinton et affronte chaque jour la tempête d'une presse déchaînée contre lui. Il n'est plus question d'envisager une victoire et, fidèle à ce qu'il est, il vend au plus offrant sa campagne qui part en vrille. Bob Mercer, un milliardaire de droite, abandonne le candidat républicain Ted Cruz et injecte 5 millions de dollars dans la campagne de Trump. Pensant celle-ci sur le point de s'effondrer, Mercer et sa fille Rebecca décollent en hélicoptère de leur propriété de Long Island pour un dîner de levée de fonds rassemblant un grand nombre de potentiels donateurs prêts à dégainer leur chéquier dans la maison d'été des Hamptons de Woody Johnson, héritier de la multinationale Johnson & Johnson et propriétaire de l'équipe de football américain des New York Jets. Trump connaît à peine Mercer et sa fille. Il a eu quelques conversations avec Bob, qui généralement ne s'exprime que par monosyllabes. Ses liens avec Rebecca se résument à un selfie dans la Trump Tower. Mais quand les Mercer lui présentent un plan de sauvetage de sa campagne en proposant d'y introduire deux de leurs lieutenants, Steve Bannon et Kellyanne Conway, Trump n'oppose aucune résistance. Il leur dit simplement qu'il ne comprend pas pourquoi ils font ça. « Ce truc, leur dit-il, est complètement foutu. » Si l'on en croit tous les indicateurs pertinents, ce n'est pas seulement l'ombre d'une destinée funeste qui plane sur ce que Bannon appelle « cette campagne de merde », mais aussi le sentiment d'une impossibilité structurelle. Le candidat, qui se prétend milliardaire et le répète à satiété, refuse de mettre un dollar dans sa propre campagne. Bannon signale à Jared Kushner, lequel, quand Bannon a été embauché, était en vacances en Croatie avec sa femme et un ennemi de son beau-père, David Geffen, qu'après le premier débat de septembre, il faudra encore 50 millions de dollars pour tenir jusqu'au jour du scrutin. Impossible de lui demander 50 millions si l'on n'est pas certain de la victoire, a répondu Kushner. 25 millions alors. On peut lui dire que la victoire est plus que probable. Finalement, tout ce que Trump accepte de faire est de prêter 10 millions de dollars pour sa propre campagne, à condition qu'il lui soit remboursé dès que de nouveaux fonds auront été levés. Steve Mnuchin, à l'époque trésorier de la campagne, prend la précaution d'aller chercher l'argent, muni de l'ordre de virement de Trump, afin d'éviter que celui-ci ne trouve plus judicieux d'oublier toute cette affaire. En fait, il n'y a pas vraiment de campagne, parce qu'il n'y a pas vraiment d'organisation, sinon un embryon d'équipe dysfonctionnelle. Le 8 août 2015, Roger Stone, le premier conseiller de la campagne, démissionne ou est renvoyé par Trump. Chacun des deux hommes a prétendu publiquement avoir laissé tomber l'autre. Le même mois, Sam Nunberg, un conseiller de Trump qui avait travaillé pour Stone, est bruyamment viré par Lewandowski, puis le candidat décide de laver son linge sale en public en poursuivant Nunberg en justice. Lewandowski et Hope Hicks, l'attaché de presse qui a rejoint la campagne à la demande d'Ivanka Trump, ont une relation sentimentale qui se termine par une bagarre en pleine rue, un incident mentionné par Nunberg dans sa réponse aux poursuites judiciaires engagées par Trump. Cette campagne, en réalité, n'est pas conçue pour gagner quoi que ce soit.